Nous abordons la dernière séance de cet atelier consacré à la Renaissance en Europe, aux Renaissances en Europe, pourrait-on dire aussi. Et la séance d'aujourd'hui est une séance un peu récapitulative, comme souvent, hein, puisque je vous rappelle, nous avions eu l'occasion dans les séances précédentes, voir d'abord ce qu'était la Renaissance en général. Nous avions évoqué ce qu'elle représentait dans un peu tous les domaines intellectuels. Et puis après, on a fait trois séances sur des territoires de la Renaissance, la France, qui n'a pas été plus facile, hein, puis l'Italie, et enfin les pays nordiques, la dernière fois. Alors aujourd'hui, comme souvent, hein, j'ai mélangé les cartes et j'ai sélectionné une trentaine, hein, on va regarder les images, une trentaine d'œuvres. Ce sont exclusivement des peintures et des sculptures. Je n'ai pas mis d'architecture, je pensais que ça compliquerait un peu les choses. Je ne voulais pas vous traumatiser pour la dernière séance. J'ai mis les œuvres par ordre chronologique, là aussi, pour faire que ce soit plus simple. Mais je pense que c'est à la fois plus simple et plus clair, quand même. Je crois que ça permet de comprendre, de voir des choses. Par contre, j'ai mélangé tous les territoires de l'Europe, dont vous allez avoir des gens de tout poil un peu à droite et à gauche. La plupart des œuvres sont des œuvres d'artistes que l'on a déjà évoquées, mais pas toutes. J'ai quand même parsemé ici et là quelques artistes que nous n'avions pas vus. Par contre, des artistes qu'on a vus que je n'ai pas resservis aujourd'hui. Mais enfin, beaucoup d'entre eux, vous les connaissez déjà. Il vous suffira de les reconnaître. C'est quand même pas bien méchant. Vous voyez, je vous masse le travail. Je sais ce que c'est l'hiver, on est fatigué. Bien. On commence.
Un bas-relief.
Voilà, effectivement, un bas-relief. Alors, qu'auriez-vous à dire sur le bas-relief en question?
L'architecture romaine derrière.
Oui, antique en tout cas, oui.
L'escalier de la perspective.
Voilà, il y a déjà un élément qui est en effet très renaissant, parce que je vous rappelle quand même que le but de ces séances, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que les œuvres que nous allons voir sont des sens, et pas ni médiévales ni plus tardives. Voilà, et effectivement, cette perspective très accentuée, l'escalier qui est à droite, nous montrons bien qu'on est là, on a vu dès la première séance, hein, que la perspective était un des ingrédients de la Renaissance, il y en a plein d'autres, hein, mais ça s'en est un. En tout cas, la perspective, j'allais dire, travaillée d'une manière scientifique, mathématique, c'est le cas pour cet escalier. Ouais. Alors, c'est un décor, évidemment, antiquisant. Voilà quelque chose aussi qui est un des leitmotifs de la Renaissance. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore?
Il y a deux groupes.
Oui.
Gauche-droite.
Ouais.
Il y a plus d'autres dans le fond, mais.
Oui, là.
Oui.
Ouais. Vous avez une idée de ce que ça représente d'ailleurs?
À gauche, un repas.
À gauche, un repas, un festin, effectivement. Oui.
Mais à droite, et à droite, c'est plutôt des esclaves, des mendiants. Il y en a un qui a une canne. Ils ont,
oui.
Ils ont des habits un peu en lambeaux.
Mmh. Au fond, il y a quelqu'un qui danse. Il y a une dame qui danse.
Oui, il y a quelqu'un effectivement qui danse ici. Mmh. Ouais.
Ah, c'est
la danse des sept voiles.
Ah, la danse des sept voiles. Mais c'est quoi la danse des sept voiles?
Dans
le Salomé.
Ah oui, alors si c'est Salomé, c'est la tête de Jean-Baptiste qui la réclame.
Eh bien voilà. Est-ce que vous la voyez d'ailleurs?
Elle est là, dans le plat.
Elle est dans le plat. Ah, dans le plat, là. C'est la tête de Jean-Baptiste.
D'ailleurs, le spectacle n'a pas l'air très ragoûtant, hein, avec un cas de. Donc effectivement, ce que vous avez là, c'est la danse de Salomé. Hein. Voilà, donc c'est le festin d'Hérode et d'Hérodiade. Hein. Voilà. Donc une scène qu'on connaît bien, on a déjà vu cette iconographie à plusieurs reprises. À part la référence à l'Antiquité et cette perspective, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui nous montre bien qu'on est là devant une œuvre très très renaissante?
Les corps sont assez bien définis.
Les
colonnes.
Oui, bien antiquisante, effectivement, voilà. Oui.
C'est la technique du bas-relief. Pardon. C'est la technique du bas-relief, avec des plans comme ça.
Et voilà, c'est ça. Rappelez-vous, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. On a vu que ce type de bas-relief, extrêmement bas, justement. C'est-à-dire que là, entre le dernier plan et le premier, vous avez peut-être un centimètre de différence, en profondeur, j'entends. Et ce genre de bas-relief qui donne une immense perspective, mais dans un rapport à l'épaisseur très court, ça c'est très étonnant. Une chose qu'on ne trouve pas trop avant, une chose qui va beaucoup se développer à la Renaissance. On a vu des exemples. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, dans une des séances précédentes, est-ce que vous vous rappelez d'un personnage très célèbre qui a beaucoup utilisé ça? Pardon ?
Les deux premiers bas-reliefs de la France. Je me souviens plus son nom.
Alors, il y a Jean Goujon.
Voilà,
on peut effectivement citer. Ouais.
Même si pendant la Renaissance italienne.
Dans la Renaissance italienne, vous pensez à qui?
À
Ghiberti. Rappelez-vous, on avait vu une des portes de Ghiberti, avec ce même type de genre. C'était du métal, du bronze, en partie doré. Là, c'est une sculpture en marbre, mais c'est toujours la même idée, cette espèce de relief aplati, si vous voulez, avec pourtant des perspectives immenses, comme on n'en a jamais fait, pourrait-on dire. Ça, c'est vraiment une des marques de la Renaissance. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'auteur de ça? Dont on a parlé, et un auteur dont on a vu un relief de ce genre. Ah, pardon. Alors, pas Ghiberti. Ça aurait pu.
Dans les portes, c'est une question. Il y a Ghiberti, mais il n'y a pas Brunelleschi qui en a fait aussi.
Alors, Brunelleschi, je ne crois pas qu'il ait fait. Il a travaillé à l'architecture, notamment l'architecture du Dôme.
Il avait fait les portes.
Peut-être qu'il a fait une porte, c'est possible, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sors mon joker.
Oui.
C'est un italien, de toute façon.
Un italien.
Oui, parce que vu le style, la façon.
C'est une des premières œuvres qu'on a vues, d'ailleurs. Qui est l'auteur de ça. Et on a vu déjà un bas-relief très, 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 très plat. On avait justement remarqué comment le bas-relief plat était une des marques.
Le bas-relief en dessous de la fresque.
Pas la fresque.
Pas la fresque.
C'est vraiment un des artistes italiens, peut-être les plus emblématiques du début de la Renaissance en Italie.
Saint-Georges.
Ouais. Vraiment un sculpteur qui est, quand on pense Renaissance italienne, paf, c'est lui. Là, il faut vraiment vous le photographier là. Pardon.
Donatello,
c'est vraiment l'un des marqueurs, pourrait-on dire, du début de la science italienne. Alors vous allez me dire, c'est compliqué parce que il y a tellement d'artistes en Italie, il y a tellement d'artistes au XVe siècle très novateurs, que dire, quand est-ce que ça commence vraiment, c'est compliqué de dire. Mais Donatello est quand même un des personnages qui, quelque part, lance la chose. Et donc, voilà une œuvre. Effectivement, on avait vu le Saint-Georges Donatello. Vous savez, une statue qui est en façon juvénile, en armurée, etc. On a remarqué comment c'était une sorte de statue antique, mais médiévisée par son armure. Et en dessous, il y avait la représentation de Saint-Georges combattant le dragon en relief très, très plat. Donatello. En plus, c'est une œuvre qui est en France, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Allez, deuxième œuvre, puisqu'on en a quand même 30 à regarder, ça fait du boulot. Alors là, c'est d'un artiste qu'on a déjà vu aussi.
Oui, c'est une peinture.
Ouais.
Alors la perspective, toujours, les colonnes.
Alors effectivement, perspective, colonne, c'est-à-dire antiquité.
Paysage.
On a vu à quel point le paysage était, sinon une invention, du moins quelque chose de très, très, très important à la Renaissance. Avant, le paysage était un peu un prétexte, souvent un peu court et très absent. À la Renaissance, le paysage prend, j'allais dire, de l'autorité.
Oui.
Il représente Jésus.
Alors voilà, on peut parler du sujet. Le sujet, c'est la résurrection. Avec les soldats au premier plan, endormis, ok.
Ça fait un style plus nordique.
Plus nordique.
Ah non, c'est
italien,
ça aussi.
C'est italien, je ne sais pas.
Pardon. C'est effectivement une fresque qui, je crois, maintenant est détachée. Hein, mais c'est une fresque, effectivement. Mais de qui? Alors, pour vous donner. Pardon.
Piero della Francesca.
C'est de Piero della Francesca. C'était de Piero della Francesca. On avait vu, vous vous rappelez, il y a deux séances, l'œuvre, la fameuse flagellation du Christ. Hein. Mm-hmm. On a vu cette flagellation à gauche, les trois personnages à droite, une œuvre très étonnante, très perspectivée, si j'ose dire. On dit souvent d'ailleurs que ça, c'est peut-être un autoportrait. Bon, ce n'est pas absolument certain. Il y a un élément intéressant iconographiquement dans cette peinture, concernant le paysage, justement, qui montre bien que le paysage n'est pas qu'un bouche-trou qui est là derrière, parce qu'il faut bien faire un paysage. Il y a un élément dans le paysage qui montre que bien le paysage dit quelque chose, il a un sens. Il
est... Et à gauche c'est mort, à droite c'est mort.
Voilà, exactement. On est devant la résurrection du Christ, on a à gauche un arbre mort, à droite un arbre vivant. On voit bien que le paysage joue un rôle. Le paysage n'est pas un bouche-trou arrière. Hein. Le paysage, il a du sens, il veut dire quelque chose. Le paysage signifie, si vous voulez. Le paysage gagne en autorité, en autonomie à cette période. Piero della Francesca, on est en 1463-65. Très bien.
C'est
l'annonciation. Oui, c'est effectivement au niveau du sujet. Donc, nous sommes devant une peinture qui représente effectivement une vierge à l'annonciation.
Je ne sais pas, non.
C'est pas très bon.
Et c'est extraordinaire, vrai, quoi.
Ça oui.
C'est magnifique.
Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Surtout ce fond.
Un tableau vraiment étonnant. Alors ça, c'est d'un peintre dont on n'a rien vu cette dernière séance.
Non.
Et je vous ai dit hein, qu'on allait que j'avais parsemé quelques artistes nouveaux. Hein. Parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup d'artistes, hein. Et en particulier en Italie. Et donc, vous avez dit que cet artiste-là avait un lien avec la Sicile.
Oui.
Bon. Et effectivement. Et donc, en Italie, il y a beaucoup d'artistes plus ou moins liés à la Renaissance. Alors après, tous discutent, hein, mais quand même. Là, on a une œuvre... À vrai dire, si je ne vous l'avais pas passé là, on pourrait dire, tiens, voilà un tableau du 17e. Hein. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus tôt. On est donc devant une œuvre vraiment très, très novatrice.
Et comment on peut se rendre compte que c'est de la Renaissance si on ne connaît pas la personne? Est-ce que là, il n'y a pas de perspective?
Eh bien voilà, justement, qu'est-ce que vous diriez?
Parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'antiquisant, il y a
les livres.
Oui, mais les livres, on le retrouve dans tout. Mm-hmm.
Alors, peut-être qu'on peut, pour essayer de voir ce qui fait que cette œuvre est de Renaissance, essayer de comparer avec des visions de l'Annonciation que vous avez d'un temps du Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez un espèce de gros plan, mais c'est moi qui réponds, ça ne va pas, ça. Ça
oui, mais la question, il me semble que c'est qu'est-ce qui nous fait dire que c'est 15 ou 16e,
ouais,
et pas 17e.
Et bien voilà. Alors, il y a les deux choses. Qu'est-ce qui fait dire que c'est de la Renaissance, que ce n'est pas antérieur ou pas postérieur, hein? Alors, pas antérieur, effectivement. À l'époque médiévale, on représente une Annonciation avec tous les éléments. Il y a l'ange, il y a la Vierge, l'ange qui a la Vierge, etc. Bon, ça, pas de problème. Par rapport à des périodes postérieures, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Le bleu qui la peinture bleue,
on a des pensées. Oui, alors c'est vrai que le bleu est quand même la couleur de la Vierge, d'abord.
Oui, d'accord.
Elle est très souvent présentée comme ça.
C'est une grande simplicité, quand même.
Oui.
Mais
c'est
oui.
Pas un bleu.
Le
17e serait. Bien pétant, comme on aurait pu faire après.
Oui, pardon, vous disiez.
C'est pas un bleu très pétant, comme on aurait pu faire plus tard.
Plus tard, vous verriez un bleu plus fort. Quoi.
Voilà,
oui. Alors peut-être que ce que vous disiez toutes deux va assez ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sobriété là, qui peut-être se trouverait un peu différente dans certains lieux, notamment en Italie. Hein. Après tout, en Italie, on va arriver assez vite au XVIIe siècle, la période baroque, où on a quand même des effets un peu plus annoncés, notamment dans la couleur. et notamment dans la mise en place. C'est-à-dire qu'on a quand même là une sobriété drastique. Hein. Le fond est sombre, il y a la figure. En plus, il y a peut-être autre chose moi, qui me frappe dans une œuvre comme celle-là.
La figure est un portrait.
Oui, c'est-à-dire que vraiment, tout est. Il y a une espèce d'intensité autour de Gilbert. Ce serait presque un portrait, effectivement. Mm-hmm. Vous savez, on a vu comment il y avait à l'époque de la Renaissance cet intérêt néoplatonicien, d'ailleurs, hein, pour l'individu, pour l'homme, la femme, hein, en tant que telle. Et là, ce n'est pas vraiment une sorte de Vierge Marie générique, hein, comme le montrent les milliers d'annonciations du Moyen-Âge, hein, où on a une Vierge un peu passe-partout, bon, c'est une femme, quoi, voilà. Maintenant, c'est la Vierge, oui, on voit un mélange, quoi. Mais là, on a une espèce de volonté presque de portraiture et de faire un focus sur l'image de la Vierge elle-même. On balaye tout le reste, c'est la Vierge, c'est elle, c'est pas une autre, quoi.
Oui, mais il nous parle, en fait, il y a sa main droite.
Elle est un peu surprise parce qu'il y a quand même l'ange qui arrive et qui fait qu'elle est un peu. Il est vrai que voir débarquer un ange, ça n'arrive pas tous les jours. Donc elle est vraiment surprise, tout en étant sereine. Hein. Mais c'est vrai que le focus, dans un tableau qui n'est pas énorme, effectivement, hein, le focus sur cette figure fait que quelque part elle est unique. C'est pas. Une vierge, encore une fois, comme le Moyen-Âge en a offert des milliers, pourrait-on dire, hein. c'est la Vierge, c'est elle. Donc il y a le côté, effectivement, intérêt, je crois que la sobriété, vous en parliez tout à l'heure, l'intérêt pour la personne, ces visions nouvelles de l'intérêt pour l'humain, mais chaque humain, et pas l'humain générique, si vous voulez, ça, c'est à mon avis des choses qui font qu'on est là devant une œuvre naissante. Ça dit que vous avez raison, c'est assez coton. Hein. C'est-à-dire que je vous passerai ça dans une série d'œuvres plus tardives. Ça apparaîtrait peut-être comme une œuvre un peu radicale, un peu. Enfin, on pourrait se dire, ça colle, quoi. À la limite, c'est caravagesque, oui, je veux dire. Il y a un côté. Voilà. Alors, il n'y a pas le côté un peu rude, dur. Caravage, vous aurez mis une femme avec des rides, et puis, des choses. Hein, l'écritoire serait un peu moins propre, le clair-obscur serait encore plus fort, etc. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour de ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, on est là devant une œuvre très, très novatrice. Hein. Et de qui?
Il a fait peu d'œuvres, je crois, et souvent, il y a un portrait d'homme aussi qu'on a retrouvé il y a quelques années dans un placard.
Oui, c'est possible, oui. Ouais. Enfin, c'est pas tout à fait un portrait d'homme, si c'est l'œuvre à laquelle je pense, c'est un visage du Christ, mais là aussi, très individualisé.
Moi, je suis étonnée par la palette de couleurs.
Oui.
Je trouve que c'est pas une palette. C'est italien, apparemment, mais je trouve que ce n'est pas une palette très habituelle en Italie. Oui. Je trouve que le visage est plutôt brun, les mains sont brunes, le fond noir. Je trouve que ce n'est pas une palette
espagnole. C'est pas espagnol ?
Non, c'est pas espagnol.
Mais oui, c'est au début, je pensais à ça.
Ouais, mais... Oui, bah, ce qu'il y a de. Ce qui, alors, d'abord, il faut faire très attention via les diapos aux couleurs. Voilà, il faut quand même faire gaffe parce que le regard sur l'œuvre réelle est quelquefois bien. En plus, le bleu est une couleur fragile, vous savez, qui évolue. Et là, je ne suis pas sûr non plus que le bleu soit tout à fait aussi dense qu'il était à l'origine. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de stérilité qui peut faire penser à l'Espagne. Et je vous rappelle que la Sicile a été, comme le Royaume de Naples, en partie espagnole. Donc, si vous voulez, l'Espagne est une entité, comme l'Italie du Sud, hein, à géographie multiple. Mais ça ne nous dit pas quel est l'auteur. Vous donnez votre langue au chat ?
Oui.
C'est Antonello de Messine. Donc, il y a un artiste très, très, très important. On est à la fin du XVe siècle. Hein. C'est vraiment très tôt. On n'est même pas au XVIe. Hein. On est au XVe siècle encore. Un artiste vraiment très important aussi parce que, vous savez, cette Sicile et ce royaume de Naples sont des lieux, je ne sais plus si j'en ai parlé ici ou sous d'autres cieux, mais où il y a eu beaucoup, beaucoup de mélanges à la fin du Moyen-Âge. Parce que la Sicile et le royaume de Naples sont passés entre les mains des Espagnols, des Français, justement des Italiens. Enfin bref, tout ça est un lieu, un melting pot. Donc il y a eu beaucoup d'influences extérieures, notamment nordiques. Beaucoup d'artistes nordiques sont allés là, où beaucoup d'œuvres nordiques sont venues dans le sud de l'Italie, ce qui fait que Messine est quelqu'un qui va, si vous voulez, Antonello, qui va mixer un peu toutes ces influences. Et ça donne des œuvres comme ça qui ont même un côté très flamand. Hein. Quand vous voyez ça, vous voyez aussi penser à des artistes flamands. Vous voyez, de ces artistes très précis, Antonio Messine, c'est ça aussi.
Il y a aussi l'islam en Sicile.
Aussi, absolument.
C'est pas lui qui introduit la peinture à l'huile.
Exactement. Antonio Messine, c'est lui qui introduit la peinture à l'huile. Enfin, du moins, qui contribue, parce que rien n'est jamais aussi simple, mais évidemment, c'est un grand introducteur de la peinture à l'huile, donc à la Vanneck, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, l'espèce de précision, vous avez regardé les crayons en premier plan, on dirait vraiment un détail d'un tableau Vanneck, quoi. Donc, on est là vraiment chez un artiste tout à fait passionnant. Antonio Messine, c'est vraiment un artiste à garder en tête. Une fresque détachée. Pardon ?
C'est pas Botticelli ?
C'est Botticelli, bravo. Très reconnaissable. Quand vous voyez la figure de Faro Centre, par exemple, ça c'est une signature. Quoi. Vraiment, c'est Botticelli. Il n'y a pas à hésiter. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Parce que le sujet est également très, très, très intéressant.
Alors, on a un couple qui se tient par là.
Alors, il y a beaucoup de femmes, effectivement. Hein.
Il y a peut-être un jeune.
En tout cas, là, chop.
Des femmes, d'ailleurs, sauf le jeune homme qui tient la main.
Voilà. Alors, il y a un jeune homme qui tient la main de cette femme, effectivement, à moins que ce soit la femme qui tient la main du jeune homme.
Un enfant.
Il y a un petit enfant derrière.
Et ils sont devant une assemblée de femmes.
Ouais.
Ils ont l'air de les juger.
Qu'est-ce qui est là
sur son bras?
Tiens, un bâton.
Elle a un bâton.
Alors, il y a des morceaux qui manquent, hein, comme vous le voyez.
Non,
hein.
Mais le personnage du haut milieu.
Ah, là.
Qu'est-ce qu'il a de noir?
Un serpent.
Un scorpion.
Un scorpion.
Ah oui, on voit les pinces. On voit les pinces. Et
la queue. Et puis la queue, tout. Et c'est en haut à droite.
C'est
un
bâton, non? C'est
plutôt une
sorte d'arc.
Ah,
oui, vous voyez. Voilà.
C'est un jugement.
Un jugement, oui.
Ils sont condamnés à mort.
Ah.
Parce que avec les deux symboles, ce serait plutôt la mort qui ferait.
L'arc et le scorpion,
la peste de Bocasse.
Pardon ?
La peste de Bocasse.
Ah, quelque chose qui évoquerait la peste.
Ouais. Et qui est cette femme ?
Du fait justement des flèches qui sont comme la peste qui vient toucher les gens. On a vu ça parfois, effectivement. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a au centre ? Qu'est-ce qu'il y a posé ?
Alors, évidemment, vous avez bien vu qu'il y avait à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes assises. Et vous avez vu qu'au centre arrivait une femme qui tient par la main un jeune homme. Ok. Qu'est-ce que cette femme a l'air de...
Un mouchoir dans la main, oui.
Qui le jeune homme.
La dame aussi.
Oui. Enfin, un mouchoir ou un volumen. Celle-là, là-haut, elle tient un volumen.
Non, mais la dame qui tient la main du jeune homme, elle a aussi un mouchoir.
Oui.
Et jeune homme, non.
Oui, oh ben un mouchoir. Oui, mouchoir gant, je ne sais pas. Mouchoir, je ne sais pas si. Enfin, quelque chose, un tissu. Bon, vous parliez d'une condamnation. Tout ça n'a pas l'air quand même très.
Méchant.
Voilà, très méchant. Hein. Ça a l'air assez doux. Hein. C'est peut-être même l'inverse d'une condamnation. Et qu'est-ce que ça pourrait être ? On est à la Renaissance. Il y a des condamnations à la Renaissance. Hein.
Un pardon.
Un pardon, oui. Enfin, quand je dis l'inverse, c'est quelque chose de plus doux.
Des fiançailles
Ça pourrait.
Oui, il y avait un problème.
On a l'impression qu'elle est bénie quand même, avec sa petite main.
Oui, mais enfin, elle, oui.
Elle parle.
Alors, effectivement.
On dirait qu'elle présente à l'Assemblée de femmes ce jeune homme.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui est au centre, qui vient présenter, ou celle-là, à même, en lui tenant par la main, hein, présente ce jeune homme à ses figures. Et vous avez remarqué effectivement que ces figures avaient des attributs. Il y en a une qui a un scorpion, l'autre qui a un volubène, celle-là a un arc, celle-là a peut-être autre chose, on ne sait pas trop bien. Bon, ces personnages, ces femmes, ces figures féminines ont des attributs.
Ça peut pas être des attributs,
ça serait quoi ? Des allégories. Je vois pas trop. Alors voilà, c'était plutôt des allégories. Chaque femme est peut-être une allégorie. Alors qu'est-ce que seraient ces sept femmes ?
Les sept péchés capitaux, vertus.
Alors ça pourrait être les vertus. Ah. Il y a aussi sept éléments très importants. Rappelez-vous que la Renaissance est un moment où on montre comment la connaissance c'est très important, comment la maîtrise, les mathématiques, etc. Alors ça pourrait être les muses. Il y en a pas sept, donc il en manque deux là.
Les arts libéraux.
Les arts libéraux. Ce sont très vraisemblablement les arts libéraux. C'est-à-dire que cette femme amène ce jeune homme à la connaissance, si vous voulez. Elle amène ce jeune homme vers les arts libéraux. J'aurais dû vérifier d'ailleurs. Les gens qui ont un scorpion, je ne sais plus ce que c'est. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas toujours représentés de la même manière, les arts libéraux. Mais je ne sais pas si ce n'est pas l'astronomie du fait de. Voilà, ou quelque chose comme ça. Il y en a un autre, c'est les mathématiques. Enfin bref, les arts libéraux, c'est les arts qui permettent la connaissance.
Ça remplace le cancer.
Pardon ?
Ça remplace le cancer.
Voilà. Donc, astrologie. Voilà, donc, c'est un jeune homme. Et alors, tout à l'heure, vous avez dit que ça pouvait évoquer aussi l'idée d'un couple. Alors, en fait, le couple, c'est pas le couple jeune homme, jeune fille. Il se trouve que cette peinture est le pendant d'une autre peinture qui représente cette fois une jeune femme à qui on présente d'autres allégories. Je ne sais plus lesquelles d'ailleurs, mais bref, c'est pas grave. Donc, on a l'impression que ce jeune homme-là et la jeune femme qui est dans l'autre peinture peut être formée une sorte de diptyque, que vous connaissez parce que c'est au Louvre, ça. Hein. Ce sont deux peintures de Botticelli qui sont au Louvre. Voilà. Donc, vous aviez trouvé, hein, c'est Botticelli, en tout cas, et c'est bel et bien une femme. Alors, on a interprété cette femme comme étant Vénus, si possible, qui vient, si vous voulez, qui amène ce jeune homme vers les arts libéraux. Ok, très belle fresque de Botticelli. C'est peu connu, bizarrement, c'est grand pourtant. Hein. Et c'est vraiment
chouette. Il y en a une, c'est pas Vénus qui offre quelque chose à des jeunes mariés.
C'est ça, c'est le pendant. Absolument, c'est le pendant de celle-là. Mais il n'y a pas les jeunes mariés, il n'y a que la jeune femme.
Ou la jeune femme.
Alors. Ça, c'est un artiste dont on n'a pas vu l'œuvre. On a vu une œuvre d'un artiste un peu proche. On les met souvent un peu ensemble.
Alors, est-ce qu'il fait beaucoup de profils ?
C'est vrai que c'est une chose fréquente à cette période.
Mais cet artiste-là ?
Il en a fait plusieurs, effectivement.
Alors, je pense à Paul Agnolo.
C'est pas lui. C'est un nom imprononçable. J'aurais jamais à le prononcer. Paul Agnolo.
Oui, Paul
Agnolo. C'est très compliqué. Mais non.
Bon, ça me fait penser à Cranach.
Vous n'avez pas tort. Hein. Il y a un côté. Qu'est-ce que vous faites penser à Cranach ? C'est intéressant.
La couleur de la peau.
Pardon ? La couleur de la peau. Oui, c'est vrai, ce côté un peu livide. Et
puis les cheveux très
roux.
Et puis les cheveux extrêmement travaillés.
Oui. Mais c'est pas faux. Hein. Il y a une affaire. Alors, Cranach n'a pas tellement représenté les personnages en buste, sauf des portraits, si vous voulez. Oui, si, quelquefois des figures allégoriques aussi. Non, votre idée est assez. En tout cas, il y a quelque chose de nordique là-dedans. Alors, c'est pas Cranach. Mais.
C'est un nordique ?
Pardon ?
C'est un nordique.
Je sais pas. Enfin, si je sais, je sais, mais je ne dis pas.
C'est le serpent, par contre. Hein.
Ah, s'appelle Simonetta, c'est ça ?
Oui, elle s'appelle Simonetta.
Oui, mais c'est. Eh bien, Simonetta, c'était.
Je n'ai pas lu en bas.
Ah oui, c'était la l'amante d'un Médicis.
Oui, Simonetta Vespucci est effectivement une amante d'un des Médicis, je ne sais plus lequel, et c'est une femme qui a été réputée pour sa beauté, son esprit, ce qu'on veut. Elle est morte assez tôt, et on en a fait une série de portraits plus ou moins allégoriques, comme une sorte de, c'est plus tard, Pétrarque, Horace Alors, etc., Boccace, Béatrice, etc. C'est un peu là, c'est un peu une des égéries idéales de la Renaissance en Italie. On a fait, après sa mort encore, des portraits de Simonetta Vespucci comme la familiale. Oui. Parce qu'à part vous, enfin je m'adresse aux dames qui sont ici, il y a aussi des femmes idéales en Italie au XVIe siècle. Voilà. Enfin, la Renaissance, exactement.
Alors, allégorie de quoi?
Alors voilà, en même temps, c'est une allégorie, parce que, évidemment, la figure est représentée de manière un peu spéciale.
Oui,
voilà, il y a un serpent d'abord qui peut faire penser à quoi?
À Ève.
Qui peut faire penser à Ève?
À la médecine.
Ou bien
à la médecine.
Cléopâtre. Peut-être plus Cléopâtre qu'Ève d'ailleurs. Hein. Parce que Ève, le serpent, est dans l'arbre et il y a la pomme, etc. Puis il y a un gros serpent. Là, c'est un petit serpent, un de ces petits aspics qui se dissimule facilement et qui vous pique en une seconde.
Il y a comme tout à l'heure un arbre mort à côté.
Oui.
Oui, il n'y a pas un côté mort à côté.
Oui, qui peut être une évocation de ça. En plus, alors, bon, et là, la poitrine dénudée, hein, ce qui évidemment donnerait aussi à cette figure un côté un peu courtisant, qui n'a pas, c'est la reine d'Égypte, mais comme vous le savez, c'est une grande séductrice. Hein. Voilà. Et en plus, ça lui donne un côté antiquisant aussi. Donc ce serait peut-être une... Je dis peut-être parce qu'en fait... Voilà. Vous savez, c'est tout le problème. On l'a dit que ce fois déjà. Hein, c'est tout le problème de ces œuvres de la Renaissance qui...
Ils sont énigmatiques.
Voilà, exactement. Ils sont des énigmes. Hein. Donc on a un portrait de Simonetta Vespucci, mais fait sans doute après sa mort. Donc c'est pas important de se le faire après sa mort. Hein. Pardon ?
C'est le temps qui passe.
C'est ça, c'est le temps qui passe. Et en même temps, c'est un portrait allégorisé. Parce que la femme est représentée seins nus et avec un serpent autour du cou, ce qui n'est pas trop habituel, un peu comme si on l'a liée effectivement à Cléopâtre, cette reine mythique de l'Égypte ancienne, n'est-ce pas? Donc il y a une espèce de mise en parallèle, mais pas très claire, avec des éléments comme effectivement ce paysage avec un arbre mort, comme par hasard. Voilà. Et c'est des espèces d'énigmes qui n'ont pas forcément de résolution, en tout cas, on ne les connaît pas. Mais elle n'en avait peut-être pas davantage à l'époque. Mais et vous savez que la Renaissance aime beaucoup ça. C'est-à-dire ces espèces de rébus qui, quelquefois, n'ont pas d'issue, mais qui sont là pour nous faire nous interroger, pour rendre la chose étrange, bizarre, curieuse, énigmatique. Et alors l'auteur?
Un Italien.
Pas d'idée? Je vous avais rien montré. Je vous avais montré une œuvre de... si je mets de Lorenzo Lotto, qui est un artiste qu'on peut un peu mettre à côté de lui. Hein. Lui, c'est Piero di Cosimo. Une œuvre célèbre, hein, qui est au musée Condé à Chantilly. Hein. Un des chefs-d'œuvre du musée Condé, c'est ça. Une œuvre très importante. Hein. Et voilà encore un artiste. Vous aviez remarqué le profil. Hein. Vous savez, on a remarqué comment, à la Renaissance, on fait beaucoup de ces portraits de profil. Ça aussi, c'est lié au regard sur l'Antiquité. Alors, le sujet d'abord,
Saint-Sébastien,
pas de problème. La dimension naissante, elle est où? Elle est c'est quoi?
L'antique
à travers quoi?
À travers l'architecture,
voilà, l'architecture.
Aussi la perspective.
Voilà.
Le corps aussi, maniériste.
Alors voilà, aussi le corps du Saint-Sébastien. Hein. C'est une sorte de... voilà, de statue antique. Alors, la tête est un peu moins, hein, la tête avec cette coiffure très fin du Moyen-Âge. Hein. Elle, vous lui retirez la tête, vous avez une statue antique peinte. Hein. Et puis, si vous retirez le périsonium, évidemment. Hein. Mais voilà, il y a donc effectivement une grande référence en antique jusqu'à... c'est amusant parce que vous avez à côté de ce Saint-Sébastien qui ressemble à une statue, quoi. Hein. Vous avez le fragment d'une statue cassée, justement. Hein. Et donc, c'est Saint-Sébastien. Bon, vous connaissez l'auteur, je crois que vous l'avez dit, d'ailleurs.
Mantegna.
Une œuvre très, très typique de Mantegna. Hein, on avait, vous rappelez, le Christ en perspective, en raccourci. Hein. Une œuvre très typique de Andrea Mantegna. Et on est à la fin du XVe siècle, quand même. Hein. C'est tôt. Hein. De la Robbia. Bon, on commence par qu'est-ce que ça représente ?
Une
vierge et l'enfant.
Dans une niche.
Pardon, dans une niche, oui.
Une statue en marbre.
Une statue en marbre. Qu'est-ce qui frappe, là aussi ? Nous sommes à la Renaissance. C'est une œuvre, là aussi, hein, qui, si je ne vous la montrais pas là, vous auriez pu dire, oh, bah, c'est une statue du 17e, peut-être. Hein. Mm-hmm. Eh bien, non.
Le fait qu'elle soit dans cette niche avec...
Alors, c'est vrai que la niche avec cette conque, voilà une affaire, mais elle est, comment dire, l'œuvre a été faite de manière un peu indépendante par rapport à son emplacement.
Alors, c'est pareil, elle est très retenue, elle ne regarde pas, au 17e, peut-être qu'elle regarderait en l'air, là elle regarde, on ne sait pas trop quoi.
Oui, elle a une sorte de regard un peu perdu. Il y a évidemment un côté, c'est assez erratique.
L'enfant aussi.
Oui. Mais là aussi, pensons à des vierges et l'enfant du XVe siècle, ou alors du XVIIe. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme différence qui fait la singularité d'une œuvre telle que celle-là ?
Au XVe, elle serait dans une chaise, une chose.
Un trône, quoi.
Oui, un trône.
Oui, un trône de gloire.
Et au 17e, elle serait plus agitée que ça.
Donc, deux des choses que vous voyez, c'est qu'effectivement, au Moyen-Âge, on aurait une vierge reine.
Oui, hein, là, elle est
dans le trône, pensez à plein de représentations de la vierge. Vous avez une vierge installée dans un trône. Souvent, il y a d'ailleurs dans les peintures un tapis derrière, un dais qui montre son importance et une mise en gloire. Hein. Là. Ok, elle est très belle, ça, c'est un peu une femme parmi d'autres. Quoi. Voilà. Et le gosse est là, il s'ennuie un peu. Lui aussi a un côté très, très gamin, quoi. Enfin, non, c'est pas...
Il ne se regarde pas, enfin, il n'y a pas de communication.
Non, il n'y a effectivement pas de lien entre les deux.
Il y a la main, quand même.
Oui, voilà, elle tient son gamin, quoi, mais c'est vrai qu'il y a un côté très, très vie quotidienne là-dedans. Hein. Et en même temps, c'est une espèce de hiératisme qui, effectivement, une espèce de rectitude, qui, effectivement, ne fait pas trop 17e, par exemple, hein, où on aurait plus d'agitation. Hein. C'est pas une œuvre baroque, c'est une œuvre contenue. Et alors, qu'est-ce qui a fait ça ?
C'est pas de la
robe.
Pardon ?
C'est pas de la
robe.
Alors,
qui est-ce qui a pu faire ça ? Une œuvre en marbre.
J'ai peur de dire une grosse bêtise, mais je pense que c'est Michel-Ange.
Eh ben oui. C'est pas une bêtise. C'est ça. C'est Michel-Ange. Mais vous connaissez tous la Pietà de Michel-Ange ?
Oui, oui.
Hein ? C'est la même, avec le gosse 20 ans, enfin 30 ans après, mort. Elle a grosso modo la même tête, je trouve ça très frappant.
Oui,
vous savez où ça se trouve, ça ?
Non.
À Bruges. On ne va pas à Bruges pour voir un Michel-Ange. Hein. Et bien pourtant, il y a un Michel-Ange à Bruges. Qui a d'ailleurs été dès le 16e siècle à Bruges. Hein. Voilà. C'est une commande. Donc c'est une œuvre extraordinaire, magnifique, super, pas très connue. Étrange, hein. Grande statue. Hein. Magnifique. Et effectivement, avec une... Alors, là où on reconnaît, je crois, Michel-Ange, c'est encore une fois regarder la tête de la Vierge et contrôler ça, comparer ça avec la tête de la Pietà. Hein. On est quand même dans la même famille, si j'ose dire. Et puis, évidemment, on voit... Évidemment, on n'a pas le côté musculeux, etc., mais la Vierge est très habillée et l'enfant est un enfant, quoi. Hein. Donc, l'espèce de complexité musculeuse des sculptures de Michel-Ange qu'on connaît par ailleurs, elle n'est pas visible, là. Hein. Par contre, c'est l'extraordinaire drapé. Regardez des choses comme ça, etc. Enfin, tout ça apparaît là, vous voyez. Ça, c'est quand même... ben voilà, par exemple. Oui. Voilà. Donc c'est une œuvre peu connue de Michel-Ange, mais très typique de son auteur, en fait. Bon, la suivante, ça, pas de problème. C'est Léonard de Vinci. Ça, ça va, tout va bien, vous la connaissez, elle est au Louvre, une œuvre hyper célèbre, pas de problème. Là aussi, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre comme ça est une œuvre novatrice, une œuvre par naissance?
Les montagnes, les rivières.
Voilà, alors là, il y a effectivement. Voilà. Ça, on le paysage. Alors, on parlait de perspective, là, c'est carrément une envolée. Hein. Voilà, espèce de paysage hein, qui va jusqu'au Vertan, là-bas. Ça, c'est une chose effectivement très, très, très nouvelle, très novatrice, oui.
La liberté
des pauses, oui. Oui. Et là, notamment, qu'est-ce qui est frappant dans ces pauses? Parce que ça représente quoi?
La Vierge,
Sainte-Anne
et Jésus.
Comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs, cette représentation?
Non.
Sainte-Anne, la Vierge, Jésus.
Et Sainte. Non.
Une généalogie, mais en fait,
non. Ouais, ça.
Non, oui.
D'ailleurs, qui résonne avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est les garçons. Là, on est du côté des filles, si j'ose dire. Sauf qu'il y a un petit garçon quand même.
Mater Trinité.
On appelle ça une Sainte-Anne trinitaire.
Oui,
c'est une vieille chose qu'on a depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on représentait plein de Sainte-Anne trinitaires. C'est-à-dire la mère, la fille et le fils de la fille. Les trois générations. Et on a, à l'époque gothique, des tas de Sainte-Anne trinitaires. Elle n'est pas élevée comme ça. Regardez là comment la Vierge, elle est assise, elle est amie sur les genoux de sa mère. Hein. On a vraiment, elle l'écrase quasiment. Hein. Très étonnant ça. Et vraiment, il y a une liberté des poses. Quand vous regardez des Sainte-Anne trinitaires médiévales, c'est pas élevé comme ça. C'est ça, c'est pas du tout. Pas du tout ça. Là, on est dans quelque chose qui, est, ouais, qui casse les codes, si vous voulez. Donc voilà, évidemment, une œuvre très, très, très surprenante. Hein. Enfin, vous la connaissez toutes, hein, c'est là. Là, Satan est l'enfant du Louvre.
Trois âges de la vie, un truc comme ça.
Alors, voilà une peinture qui, effectivement, représente trois personnages. On pourrait y voir trois âges de la vie, encore que, bon, certes, on en a un plus vieux. Deux plus jeunes, alors celui-là est sans doute plus jeune que celui-là, mais enfin peut-être pas tellement plus, celui-là est carrément plus vieux, enfin bon, c'est une possibilité.
Ou c'est des philosophes et des savants, il y en a. Le petit jeune, il a une équerre, le vieux, il a.
Alors effectivement, vous avez raison, hein. Ce sont des savants, des philosophes, sans doute les deux, lui il a une équerre, visiblement il réfléchit, hein. Lui il a un volumen. Au centre, il a l'air de penser aussi. Effectivement, on a l'impression d'avoir face à soi trois savants, trois philosophes. Alors là aussi, quid ? Non, enfin, je crois pas. Vous voulez dire quelque chose ?
C'est les trois personnages comme ça.
Ouais. Bloqué à droite ?
Ouais.
Alors, je vous ai montré, vous savez, un Pierrot de la Fontaine avec trois personnages sur la droite, comme ça.
Oui,
ça va.
C'est la flagellation.
C'est la flagellation.
Oui. Il y a un village au fond.
Oui.
Un paysage.
Vous avez vu cette trouée, là.
Ah, ouais.
Une trouée qui est un peu bouchée par la grotte qui est là. Hein.
Mais les toiles ne sont pas très italiennes. Plus de.
Ben oui, c'est effectivement, ça ne fait pas très italien cette fois-là.
En plus des philosophes, c'est des ermites.
Alors oui, on pourrait se demander si ce n'est pas des ermites. Hein. Par exemple, je vois, il y en a un qui voulait bien, c'est un ermite.
Celui
de droite, oui. Il ferait un peu penser à un saint Antoine, par exemple. Ermite. Hein. Alors, on ne voit pas le cochon. Alors zut, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que celui de droite, on va se dire, bah, tiens, c'est saint Antoine.
C'est pas ça.
Mais en même temps, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'ils font là?
C'est le turban aussi qui m'a.
Ah oui, le turban.
Ça évoque un autre monde, un autre pays, un autre culture.
Eh oui, effectivement, on voit un personnage avec un turban manifestement tout à fait oriental. Hein. Et il est au milieu de personnages qui, eux, ne font pas trop orientaux. Celui de gauche est très occidental. Celui de droite est un peu... bon, voilà. Ça pourrait être un ermite dans le désert, comme... Je ne sais pas trop. Quoi. Qu'est-ce qu'ils font là, ces trois gars, en train de faire quoi, d'ailleurs?
Il y a le rocher qui est en bois.
Alors, oui. La moitié de la toile est prise par un rocher. Enfin, une sorte de grotte.
Ouais. C'est peut-être les rois mages qui se reposent et ils cherchent la route.
Alors, on ne voit pas beaucoup de chameaux, ni de poils du berger, mais enfin, ils sont habillés de manière un petit peu, comment dire, voilà, simple. Hein,
mais c'est une tenue de voyage.
Voilà, c'est des rois mages simples.
Voilà, c'est une tenue et qui a une bourse.
Alors, non, j'arrive non, pas à voir. J'ai l'impression non, c'est sa ceinture. C'est, voilà, j'ai l'impression que c'est pour la ceinture qui est avec le nœud de la ceinture qui descend.
Alors, et ces plaques,
c'est
jaune, rouge, vert.
Oui, alors c'est très pictural, ça vous avez raison aussi de le dire. C'est-à-dire, on est quand même chez des peintres, hein. Donc il ne faut jamais oublier, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, que la couleur, elle est importante. Et là, effectivement, on a une sorte de palette hein, sur la droite, ça c'est effectivement très, très intéressant. Là, pour l'idée. Mais qu'est-ce qu'ils font là, tous les trois? Ils ne se regardent pas trop d'ailleurs. Hein.
Non.
Et ils sont là devant une grotte. Ils font quoi?
Ils attendent que quelqu'un en sorte.
Peut-être. Oui, il y en a un qui a l'air de regarder dans la grotte. Bon.
Prendre des mesures.
Donc, vraiment, le sens de cette œuvre, c'est quoi?
C'est pas l'obscurantisme du rocher, de la grotte et puis.
Alors, peut-être. Et eux seraient face à ça pour essayer de comprendre. C'est peut-être ça. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Ça vous rappelle pas quelque chose?
On ne sait pas, l'énigme.
Pardon ?
L'énigme.
Une énigme. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas un peintre qu'on a déjà vu ? Vous aviez une idée ?
Giorgione.
Eh oui, Giorgione. Vous vous rappelez le tableau de Giorgione qu'on a vu ?
La tempête.
La tempête. C'est un peu extrêmement bizarre où on voit dans un paysage comme ça, une perspective, hein, dans lequel on voit dans le fond un village. Et puis on voit à droite une femme nue avec un enfant, à gauche un soldat, le ciel est démonté, ça s'appelle l'orage, et on ne comprend rien. Et bien là, c'est du même, c'est de Giorgione, et on ne comprend pas davantage. C'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a là, de ces tableaux que la Renaissance adore... Pardon ?
C'est monsieur, je fais n'importe quoi.
Oui, alors ça s'appelle les trois philosophes, parce que je ne peux pas dire d'autres. Et voilà, ça représente effectivement trois personnages qui sont des sachants, comme on dit aujourd'hui, manifestement. Et puis c'est des gens qui se posent des questions, semble-t-il. Hein. Des gens d'Orient, d'Occident, de partout. Hein. Bon, la Koinée, Eirenet, la terre habitée. Hein. Et ils sont là, qui se posent des questions. Et effectivement, ils se posent des questions, on veut une grotte. Et on peut se demander si c'est pas, parce que la grotte prend la moitié du tableau, quand même, hein, si c'est pas une espèce de questionnement entre. À gauche, la grotte, le noir, l'obscurantisme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est plutonien, ça descend. Et à droite, la connaissance. Vous voyez, la connaissance qui, effectivement, essaie de se confronter à l'ignorance, quelque chose dans ce goût-là. C'est peut-être ça. C'est peut-être effectivement ça, parce qu'on peut se poser la question de ces trois personnages sachant devant une grotte qui recèle tous les mystères. C'est peut-être ça. Mais c'est un tableau qui fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps, et un peu comme l'orage, on ne sait pas trop, à vrai dire, quelle est la clé. C'est donc de ces tableaux énigmatiques que la Renaissance aime tant. Alors là, un tableau moins énigmatique.
L'ascension.
L'ascension. Regardez bien.
L'Assomption.
Non.
C'est un monsieur, au moins.
Ah, c'était plutôt un juge.
Un jugement?
Oh non, parce qu'il y a trois personnages.
Qui... Mais je sais pas, il y en a qui ont peur. Là,
ils sont éblouis.
Oui, ils sont éblouis. Okay. Bon, en haut, le personnage en haut, c'est qui?
Le Christ.
Et les deux, chacun, ils ont un livre.
Alors, il y a deux personnages aux côtés. Ils ont un livre. Ça peut être qui?
Des apôtres
ou... Des évangélistes, oui.
Des anges qui...
Des anges sans ailes, oui.
Ils ont des draperies.
Ils ont des draperies, oui.
C'est...
Eh ben voilà, c'est Moïse et Élie. Et voilà, c'est quel mois? Qu'est-ce qui se passe?
C'est avec les trois apôtres qui sont conviés à aller sur la montagne.
Ouais.
Et puis, c'est même, il y a Saint-Pierre d'ailleurs, qui dit, dressons une tente.
C'est ça, une pour toi, c'est le Christ, une pour Moïse, une pour Élie. Et cette vision, on la rappelle comment? Parce qu'évidemment, le Christ emmène trois apôtres, Pierre, Jean, Jacques, l'un des Jacques, et il les amène sur une montagne. C'est pas le mont Tabor, enfin, sur une montagne. Et là, sur cette montagne, le Christ est transfiguré. Il devient complètement illuminé. Et en plus, arrive Moïse et Élie. C'est vraiment ce qu'on voit dans la partie supérieure. Et vous voyez, les apôtres sont absolument... Ils ne peuvent pas regarder parce qu'il est transfiguré. Il est tellement brillant, si vous voulez, qu'il ne faut plus le regarder. Et bien après, il redescend, tout va bien. Les autres apôtres n'étaient pas là. En fait, là, vous avez une scène en deux parties. Les deux parties qui sont... alors pourtant, il y a les personnages du bas qui montrent la scène du haut. Mais pendant les deux scènes, les évangiles disent bien, je les ai relus hier, disent bien qu'il n'y avait que trois apôtres. Il n'y avait pas... mais en quelque sorte, ils y font référence. Parce qu'après, le Christ va revenir... Et certains textes disent qu'il a, en revenant, guéri un enfant qui était habité par le diable.
Ah oui, on le montre du doigt d'ailleurs.
Ah oui, il y a une famille qui amène un enfant, il a les yeux révulsés. Hein. Et là, vous avez des apôtres, enfin ceux qui restent, qui montrent l'enfant. Et quelque part, on annonce que le Christ va pouvoir lui qui a été transfiguré, va pouvoir le guérir. Miracle. Alors, c'est une œuvre assez... Qu'est-ce qui nous a fait ça?
Ça ne pouvait pas être Bellini avec une palette d'autres qui nous vivent et contrastées.
C'est vrai que ça, c'est un chromatisme qui pourrait faire penser à Bellini, mais non. C'est une œuvre assez différente de tout ce qu'on a vu. Hein. Là, c'est vraiment quand même une œuvre qui ouvre... sur l'époque moderne à venir. Là aussi, je ne vous aurais pas passé ça dans un atelier sur le XVIe siècle, sur la Renaissance, exactement. On mettrait ça au début du XVIIe, ou tranquille. Ben non, c'est un siècle. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il faut être un peu... faut avoir des idées pour faire ça. Donc c'est pas un Mickey, quoi.
Un espagnol?
Un espagnol?
Je sais pas, ça me fait penser à l'Espagne aussi. Ça peut être aussi un artiste.
Un artiste super célèbre. Un des piliers de la Renaissance occidentale. Un des plus importants. Tout simplement. Ah, je sais pas. Peut-être bien oui. Devant le silence. C'est Raphaël. Vous avez là un des chefs-d'œuvre de Raphaël. Vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Il faut connaître cette œuvre. C'est un des tableaux clés de la culture occidentale, tout simplement. Un tableau capital à connaître. Ça, c'est vous rendez compte, on est en 1516, 1520, très tôt au XVIe siècle. C'est un tableau extraordinaire. Et un tableau qui est baroque avant l'heure, d'une certaine manière.
Oui, parce qu'on veut...
C'est extraordinaire. Vous savez, Raphaël révèle bien des surprises. Je crois qu'on est toujours surpris de voir et de re-regarder les fameuses stances de Raphaël Loewen. Vous vous rappelez, c'est avec vous que j'avais déjà montré l'autre jour, on avait vu l'école d'Athènes, par exemple. Regardez, par exemple, aussi la délivrance de Saint-Pierre dans les chambres de Raphaël au Vatican. C'est une peinture extraordinaire. Raphaël, c'est vraiment... Si vous voulez, il est tellement classique qu'on ne regarde plus. Raphaël, on ne regarde plus. Qu'est-ce qui parle de Raphaël aujourd'hui? Personne. Raphaël, on n'en parle pas. Mais c'est un artiste incroyable. Quand on le replace dans le temps qui est le sien, on est stupéfait. Et finalement, on voit ça, qui est un collègue vatican. Hein, c'est pas... on disait de trifouiller les oies. C'est un tableau qui est tellement important que finalement, on ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il faut re-regarder. Un jour, on fera peut-être quelque chose sur Raphaël. Parce que voilà un artiste énorme, et finalement plus très vu. Ça, c'est une œuvre vraiment stupéfiante. voyez quand même comment au début du XVIe siècle, on a là quelque chose qui est complètement novateur à tous les points. Composition, chromatisme, bref, tout est nouveau. Alors,
Hercule.
Ouais, Hercule.
Et
Hercule avec une de ses conquêtes, il y en a eu plusieurs. Alors il y a Omphale. Ben non, c'est pas elle. Pourquoi c'est pas elle?
Parce qu'on ne voit pas les objets.
Exactement. 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 Parce que vous savez que Omphale a été une des conquêtes d'Hercule, et Omphale a réussi à faire faire à Hercule des activités féminines.
Oui, oui.
Ce qui a été remarquable, parce qu'Hercule, dans le genre gros butio, c'est quelque chose. Hein. Or, Omphale a réussi à faire faire à Hercule du filage de laine, des activités d'aiguille. Bon, Hercule, lui, à part la massue, il ne sait rien faire. Hein. Et bien, Omphale a réussi, parce qu'il était super amoureux d'Omphale, à lui faire faire des activités d'aiguille. Alors là, il n'y a rien qui évoque ça, donc c'est effectivement pas Omphale. C'est une autre de ses conquêtes. Ben je voulais, c'est la belle Déjanire. Déjanire était une jeune femme très charmante, mais qui avait été enlevée par le centaure Nessus. Et Hercule y a mis fin, il a réussi à tuer Nessus et à délivrer Déjanire, c'est ce que vous voyez là. Bien. Il n'a pas fait que la délivrer. Et donc, vous voyez ici cette scène. Là aussi, alors qu'est-ce qu'il y a d'abord, oui, qu'est-ce qu'il y a là de renaissant, où est-ce que vous placez ça, qui a fait ça, on est au nord, au sud, à l'est,
c'est maniériste,
maniériste, très maniériste, oui.
Et les jambes,
ah oui, regardez le jeu des jambes, c'est extravagant, hein. Incroyable, hein. Et
l'architecture,
oui, voilà,
néo-antique,
voilà, architecture néo-antique, ah, avec ces espèces de bucranes, vous avez vu là-haut,
oui,
hein, les grandes plaques de marbre. Hein.
Et puis
les bas-reliefs, là, qui après, un peu comme un sarcophage antique, avec les travaux d'Hercule. Hein. On voit Hercule et Anté ici, par exemple. Hein. Voilà. Alors, c'est fait au sud, c'est fait au nord, c'est fait à l'est ou à l'ouest? Au nord?
Oui.
Ouais.
Parce que l'autre fois, on a vu une tête comme ça, avec des
cheveux. Oh oui, vous l'avez déjà vu, celui-là.
On a vu ce visage.
Absolument.
Oui,
c'est un artiste que je vous ai déjà montré.
Maniériste avec,
oui,
une scène au fond qui était la scène.
Alors non, c'était
non,
pas
c'était
ça.
Non, c'était David.
Vous avez, je vous ai montré la fois dernière un tableau de lui.
Oui,
ben, c'était pas l'avant-dernier, hein, très maniériste.
Non.
Non.
Non. Ben, des traits maniéristes, on en a vu quelques-uns.
Non, c'est un nordique.
Oui, oui, mais c'est un nordique.
Un nordique maniériste, mais. Ah, je vous mets sur la piste. La dernière fois, je vous ai montré de lui une Danaë.
Gossert.
Bravo, Gossert. Voilà, Gossert. Vous savez, Gossert Mabuse, qui est un Maubeuge, dont je vous ai bien dit que c'était l'un des prêtres attitrés de
Marguerite
d'Autriche. Hein, la petite fille de Charles le Téméraire, quand même. C'est une affaire bourguignonne, ça. Hein. Voilà. Hercule est déjà. Très bien. Et on continue. Il y a du mouvement, hein. Alors, une peinture qui représente quoi? Commençons par le thème, si vous voulez.
Il y a des animaux sauvages
qui tirent un char.
Il y a un homme qui est entouré de serpents. Il y en a un qui, on dirait qu'il a une cuisse de chevreau, tu vois, qu'un animal dans la main.
Des musiciens,
une chasse.
Il y a une tête de l'animal devant, oui.
Ah là.
Oui.
Ouais, non.
Et il y a un petit faune. Oui. Avec ses pieds, oui, de bouc qui étaient
en elle. Un char tiré par des.
Il y a un char tiré par deux.
Léopards.
Oui, c'est une bacchanale. Et puisque c'est une bacchanale, le personnage au centre, c'est
Bacchus.
Vous reconnaissez, qu'est-ce qu'il a dans les cheveux?
Ah oui,
des pampres. C'est Bacchus. Et alors, autour de Bacchus, il y a...
Des
satyres, des faunes. Et les madames satyres, on les appelle comment parfois? Elles ont pas forcément. Par exemple, vous en voyez une là. Hein. Alors, c'est pas une satyresse, mais c'est. Elles sont toujours autour de Bacchus. Bling, elles ont souvent des crotales avec lesquelles elles sonnent comme ça. Des ménades.
Des
ménades, des satyres, hein, des faunes. On voit même dans le fond, là, ce gros personnage bedonnant sur un âne.
Silène.
Hein, Silène, il ne tient jamais le bout, de toute façon, il est sous en permanence. Hein. Donc il est sur un âne, et puis bon, il essaie de tenir le coup. Bien. Donc on a, et bien, vous savez, les faux, les ménades, etc., ils ne sont pas tendres. Hein. Ils rencontrent une biche, paf, il la tue pour la manger, etc. Vous savez, vous avez une tête de biche au premier plan. Là, le faune à l'arrière, il brandit un cuisseau de chevreuil, ou que sais-je encore. Voilà, c'est une espèce de cortège bachique, à la fois rigolard et violent, vous savez. Enfin, bien. Et qu'est-ce qui se passe?
Ils arrivent au bord de l'eau.
Au bord de la mer. Et ils rencontrent... La personne qui est à gauche. Hein. Voilà. Ils arrivent, ils rencontrent cette dame. Et alors lui, Bacchus, quid?
Il n'est pas content.
Il est peut-être trop au contraire. Ah ben oui, il va carrément se jeter sur elle. Hein. Parce que c'est qui? Cette personne qu'il rencontre? Un indice. Elle est là-bas dans le fond. Qu'est-ce qu'il y a sur l'eau là-bas dans le fond?
Un bateau.
Qui s'en va?
Ah, ben elle a été abandonnée.
Ah oui, elle a été abandonnée.
C'est Ariane
qui a été abandonnée par qui?
Par Thésée.
Donc elle se désole dans l'île de Naxos. Ariane à Naxos. Alors elle se désole, elle se dit, oh là, c'est épouvantable. Et qu'est-ce qui arrive? Bacchus! Il y a Bacchus qui arrive. Et Bacchus trouve Ariane tout à fait à son goût. À vrai dire, c'est le coup de foudre immédiat. D'ailleurs, vous le voyez, vous y assistez. Ça, c'est le coup de foudre de Bacchus pour Ariane. Ariane, elle est un peu surprise, et puis elle est un peu... se dit, où est-ce que ça va? Parce que c'est un peu bruyant, le cortège de Bacchus, et puis il y a des animaux sauvages, enfin, vous voyez le genre, quoi. Donc, c'est le coup de foudre de Bacchus pour Ariane.
Pourquoi voilà. C'est 8 étoiles?
Ça, c'est la constellation d'Ariane qui est représentée. Une fusée européenne, comme vous savez. Bien, alors voilà pour le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on est à la Renaissance? Ben voilà, on va dire éternellement la même chose, et c'est en redisant éternellement la chose qu'on va s'en souvenir. Hein. La pédagogie, c'est ça. Hein. Effectivement, le paysage a un rôle. Il nous dit que c'est Ariane, puisqu'il y a Thésée qui s'en va.
Oui.
Donc, le sujet antique, absolument. Hein. Des Ariane à Naxos médiéval, c'est un compagnon. Hein. Voilà.
Les romantiques, le personnage d'Ariane, on pourrait presque le voir sur un tableau de romantique.
Romantique, je ne sais pas. En tout cas, du XVIIe siècle, certainement, oui. Décidément, on est là dans une génération d'artistes absolument novateurs. Hein. Vous avez raison, hein. Ce genre de figure-là, tournante hein, sur elle-même, hein, virevoltante, c'est quelque chose d'absolument nouveau. On est plus dans une espèce de statisme un peu médiévisant. On est là dans des gens qui ont regardé la sculpture antique. Hein. On a des œuvres antiques, je pense à une ménade d'après Scopas, qui est très proche de ça. Hein. Tous ces gens-là ont regardé la sculpture antique. Et qui est-ce qui a fait ça? Cette œuvre est super typique d'une école picturale de la Renaissance fondamentale.
Ah, c'est pas l'école de Fontainebleau?
Non. Une cité où il y a beaucoup d'eau.
Venise.
Et c'est Titien. Ça, c'est un chef-d'œuvre de Titien. une œuvre. Alors, ça, c'est important. Vous voyez, voilà une peinture super vénitienne. Hein. Vous connaissez d'autres artistes de la Renaissance vénitienne ?
Tintoret.
Véronèse. Voilà trois grands noms. Là. On avait vu Bellini la dernière fois. Hein. Voilà. Donc il y a comme ça, ou Giordione, hein. On a vu toute une série de noms. Là, c'est donc Titien, hein. La rencontre de Bacchus et Ariel. Très bien. Alors on continue, on va aller un peu plus vite parce que. Allez, on continue. Ça, c'est un artiste dont je ne vous avais rien montré. Je vous avais montré quelque chose. Un très important pour nous en France.
Une
déposition de croix. Un artiste très important pour nous en France. Pourquoi ?
Il est presque cubiste.
Oui, c'est étonnant, mais vous avez vu une espèce de réseau de personnages, enfin, de complexité. Vous savez, tout à l'heure, on a vu le Gossert avec les jambes qui sont mêlées entre. Mais là, c'est pareil, les personnages chambés, on ne sait pas comment ça se passe. Quoi. Une espèce de liberté de la pose, là, qui est aussi un des leitmotifs de cette peinture de la Renaissance.
Par contre, pour savoir que c'est la Renaissance, c'est pareil, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas.
Mais c'est très structuré.
C'est très, tellement structuré.
Oui, mais à l'époque baroque, la structure serait moins présente. Hein. Là, vous avez quand même la croix au centre, avec la partie horizontale. Vous avez, si vous voulez, une espèce de construction, une sorte d'imbrication. Il y a des choses aussi indicibles. C'est aussi en voyant, en revoyant, en revoyant, en permanence. Hein. L'histoire de l'art, c'est d'abord un catalogue d'images qu'on a en tête. Donc il faut. Il faut bouffer de l'image, faut en voir. C'est ça l'histoire de l'art.
C'est simplifié au point de vue volume.
Oui, aussi, oui. Absolument.
C'est un côté géométrique.
C'est ça, il y a un côté géométrique, une sorte de sobriété. Je crois qu'à l'époque baroque, au XVIIe, on n'aurait pas ça. On aurait beaucoup de. Là, en plus, il y a des espèces de grandes plages colorées ou lumineuses, vous voyez. Au XVIIe, vous auriez de la moirure dans tous les sens, avec des tas de choses qui. Alors là, quelque part, c'est très ordonné, même si ça va dans tous les sens. C'est un artiste qui est. Vous le situez où, cet artiste ? En quel pays ? Alors, il a fait une partie de sa carrière en France, mais il vient d'Italie. C'est pas Pontormo, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Un artiste qui est fondamental en France, pourquoi ? Parce qu'il a travaillé où ? Il a travaillé pour Saint-François Ier. Quel est le grand artiste italien ?
Rosso.
C'est Rosso. Rosso Fiorentino, rappelez-vous. Hein. Ça, c'est la deuxième séance. Alors, on avait un peu nagé dans la deuxième séance. Hein. Mais rappelez-vous, on avait vu une œuvre de Rosso, hein, de la galerie François Ier, si je ne m'abuse. Non, on avait vu là une Pietà de Rosso, hein, mais fait en France par lui. Donc ça, c'est une œuvre de Rosso Fiorentino. Donc une œuvre très typique de ce que l'on fait à Florence à l'époque. Hein, et d'un artiste qui va de Florence aller à l'invitation de Renaissance en France. Donc Rosso, il est capital. Parce que c'est lui qui amène la Renaissance en France pour faire la Renaissance italienne. C'est un artiste fondamental, hein, pour nous. Tiens, je vais un peu plus vite parce que un portrait d'homme. Qu'est-ce qu'il y a de renaissant là-dedans ?
C'est une médaillon.
Vous savez, ça rappelle ces médaillons qu'on voit quelquefois sur les façades des maisons de la Renaissance. On voit des médaillons avec des bustes qui sortent.
Voilà. C'est une peinture.
Peinture, ouais. Mais qui singe la sculpture.
Mais ça, c'est
Dürer. C'est Albrecht Dürer. Vous avez vu son monogramme en haut à droite, hein. Voilà. Un portrait extraordinaire. Très néo-antique, vous voyez, il est figuré nu, à l'antique. Hein, voilà.
Il fait très moderne.
Très réaliste aussi. Hein,
c'est voilà. Ça, on a l'impression que la personne va vous parler.
Ah oui, il y a un côté, effectivement, très, très réaliste, très moderne. Je continue un peu plus vite pour qu'on arrive à tout voir. Ça vous rappelle des choses ?
Ça fait une déposition de
l'ombre. Oui.
Ça fait un peu comme Parmigiane.
Oui, mais est-ce que ça vous rappelle des choses qu'on vient de voir ?
Ben, ça,
Alors, c'est Pontormo cette fois, mais ça ne vous rappelle pas ce qu'on vient de voir de Rousseau il y a deux minutes. On est dans un tableau typique de la Renaissance à Florence. C'est très différent de ce qu'on a vu à Venise. Ce n'est pas du tout les couleurs de Titien, par exemple. Vous vous rappelez l'œuvre de Titien, au-delà du sujet, pas du tout pareil. Vous voyez cette espèce de couleur un peu acidulée. C'est vraiment une chose très particulière. Ça, c'est Pontormo. Oui, le rose, le bleu.
Le corps tout rose.
Oui.
Blanc.
Ouais. Et puis ces espèces de grands aplats, très. Ce qu'on a vu chez Rousseau tout à l'heure, vous avez vu ces grands aplats colorés, là. Hein? Tiens. Alors, un artiste, là, vous ne le connaissez pas, je suis sûr. On n'a rien vu de lui. Mais je voulais vous le flanquer au milieu de ce diaporama. Pardon, oui, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham. On dit souvent sacrifice d'Abraham comme si c'est Abraham qui. En fait, c'est Abraham qui sacrifie Isaac et qui vraiment le sacrifie.
On voit
pas,
bien que c'est quand même un sacrifice de sa part.
C'est ça. Non, il n'est pas très heureux. Non. Il est bien contrarié. Hein. À votre avis, c'est une œuvre d'un artiste doux, ça? Eh ben voilà, c'est une œuvre espagnole. La sculpture en Espagne à la Renaissance est très singulière. C'est une sculpture en bois, peinte comme ça, de manière à la fois alors complètement contournée, vous voyez bien,
c'est du bois
peint. Mais effectivement, un bois très laqué, presque laqué, comme ça, hein. Très élancé, c'est brillant. Hein. Ça se regarde sur plein de faces, c'est complètement contourné. D'un artiste qui s'appelle Berruguete. Berruguete, c'est le grand sculpteur de la Renaissance espagnole. Et puisqu'on avait vu assez peu de choses, c'est compliqué, la Renaissance espagnole, donc je ne voulais pas en mettre trop. Voilà, mais je voulais en mettre quelques-uns, notamment lui. C'est quoi ?
Une bataille.
Une bataille. Précisément, c'est la bataille d'Issos, une bataille gagnée par
Alexandre.
Donc c'est la bataille d'Issos. Ça, c'est d'un artiste doux, à votre avis, dont on a vu une œuvre la dernière fois.
Ça fait très impressionniste, presque.
Ah.
Ah oui,
ah, le ciel.
Ouais. Puis même les personnages, les tâches.
Alors, en même temps, c'est extrêmement précis, vous voyez tout. C'est un petit tableau, et il y a des milliers de soldats, et chacun, on voit les armures, etc. C'est une miniature. C'est pas du tout de la grosse touche comme ça, vous voyez. C'est miniature, miniature, miniature. La dernière fois, on avait vu de Louis, je vous mets sur la voie. Pardon ?
Une autre bataille ?
Non. C'était, enfin, une bataille, si on veut, c'était Saint-Georges qui combattait le dragon dans une forêt. La forêt, on voyait toutes les feuilles des arbres.
Hein, oui,
Aldorfer. Et ben voilà, Aldorfer. Voilà. Après, vous vous rappelez de la séance avec le dragon la dernière fois ? C'était la forêt qui valait l'armée. Aldorfer. Ah, et le suivant, là, je suis sûr que vous allez tous se reconnaître.
Cranach.
Hein? Typique de Cranach. Voilà, typique de chez Typique, parce que c'est lui. Ça représente qui?
Judith
avec la tête de l'enfer. Voilà. Qu'est-ce que ça a de Renaissance, ça, en deux mots?
Eh bien, un thème antique.
Oui, enfin, non. Biblique.
Oui, pour enfin, le Moyen-Âge.
Oui.
Le costume.
Oui, le costume, bien sûr, oui. On est à la Renaissance, un moment où il faut connaître, voir, savoir, un moment où les valeurs néoplatoniciennes sont importantes. Et par exemple, l'exemplarité, le courage. Ça, c'est Judith. C'est une femme courageuse. Elle a sauvé son peuple. Hein, avec Esther, c'est une des grandes héroïnes de la Bible. Donc on a là une femme exemplaire. À l'époque de la Renaissance, on va comme ça, quand on est un esthète, etc., on va commander à des artistes des portraits, entre guillemets, de personnages exemplaires. Elle est exemplaire. D'ailleurs, Cranach a fait trentaine de représentations de Judith, au moins. Non, des quantités. Et son atelier en a fait autant. Donc, si vous voulez, on aime avoir chez soi des représentations de certains grands personnages exemplaires, extraordinaires, parce que on doit travailler, enfin on doit vivre à leur image d'une certaine manière. Un portrait. Ça pourrait faire penser à Holbein, c'est vrai. Alors c'est pas lui. C'est pas Durer non plus, dont on a déjà vu là.
Green.
Pardon.
Green.
Non plus. Un bon français.
Un bon français.
Clouet. Alors, le problème, c'est que les Clouets, il y en a deux. Bon. Alors, c'est lequel? C'est Jean. Jean Clouet. Mais c'est assez normal que vous ayez parlé de Holbein. Ça fait évidemment pas mal penser à Holbein. Voilà. On a finalement une sorte de... Dans les territoires du Nord, on a une sorte de... Je vais dire de communauté de représentation des portraits. D'ailleurs, Clouet, qui a travaillé en France, est originaire du Nord. Donc, très normal. Ah. Nous avions vu... Alors ça représente quoi?
Saint-Luc
peignant la Vierge. Vous voyez Saint-Luc à droite qui est en train de peindre la Vierge qui est face à lui. Tout ça, c'est un peu... Nous avons vu dans la première séance un Saint-Luc peignant la Vierge du même. Et nous avons revu une œuvre de lui la fois dernière. Il était devant le Colisée.
Et le Saint-Luc?
Oui.
C'est pas tout à fait lui. C'est Van Heemskerk. Alors là aussi, je crois qu'on voit des tas d'éléments pré-Renaissance, depuis le bas-relief antique que vous voyez en bas à droite, jusqu'à l'espèce de tête de fond que vous voyez en haut, et puis décidément cette espèce de liberté, quoi, regardez les figures très contournées.
La Vierge, on dirait qu'elle a un tartan.
Pardon ?
Oui, la Vierge, on dirait qu'elle a un tartan sur les genoux.
Oui, oui, absolument, oui. Ouais, oui. Et là ?
Ah, ça c'est Anne Boleyn. Ça ressemble.
Ouais. Donc c'est un portrait. Ouais. Femme, ouais. On a déjà vu des œuvres de ce peintre.
Oui, à Lyon.
Oui, Corneille de Lyon. Voilà, Corneille de Lyon, bravo. Corneille de Lyon, on avait vu un petit portrait d'homme. Et puisqu'on est dans le portrait. Vous l'avez cité déjà?
Oui, ça c'est Holbein.
Ça c'est Holbein, absolument. C'est un portrait de qui?
Oh, ben, une de ses femmes. Enfin, non,
c'est une des femmes d'Henri VIII.
D'Henri VIII, oui. La seule qui a bien fini, si j'ose dire.
Donc c'est Catherine.
Alors, ça aurait pu être. Oui, elle aussi a bien fini parce qu'il est mort avant elle. Donc voilà. Mais ça, c'est celle qui a été épargnée, c'est Anne de Clèves. Parce que les autres, ça a été plus compliqué. Là aussi, qu'est-ce qui montre qu'on est là, au XVIe siècle, que c'est une œuvre de la Renaissance du Nord?
C'est un portrait.
Portrait. Avant réaliste, oui.
Portrait réaliste, c'est la tenue.
La tenue, bien sûr, oui, ça, c'est la mode, effectivement, doit être mise en mode.
Le fond uni, sans,
oui.
Sans rien.
Oui. Je pense aussi que dans le côté compliqué de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a le vêtement, il y a aussi ce côté très, très symétrique, très construit. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à la Renaissance, beaucoup, qui va se déglinguer après, si vous voulez. Ce côté, vous coupez en deux l'œuvre, vous avez à droite ce que vous avez à gauche, en gros. Vous voyez? Il y a un côté construit. Ça, la construction, elle n'est jamais totale, c'est jamais une symétrie, mais une espèce de rectitude, ça c'est une chose qu'on trouve volontiers.
C'est
Parmesan, absolument. C'est la fameuse Vierge dite au long cou, parce qu'elle a un cou qui n'en finit pas. Alors ça, dans Jean Maniériste, bonjour. Voilà. Alors ça, je ne vous avais pas montré, c'est toujours un artiste important de la Renaissance italienne, mais on ne l'avait pas vu, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer, puis dans un parti consacré à l'Italie, ça se bousculait au portil. Je voudrais que j'en ai mis d'autres aujourd'hui. Donc, l'œuvre suivante, elle est dans la région, donc vous la connaissez tous. À deux pas d'ici. une œuvre illustrissime, qui est dans la région depuis le XVIe siècle. Tableau fondamental, énorme. Exactement. Bronzino. C'est le tableau offert par un Médicis à Granvelle. Vous vous rendez compte? C'est un cadeau d'un Médicis au ministre de Charles Quint. Et c'est toujours là à côté. Un tableau extraordinaire. Hein. Vous me foncez demain au musée de Besançon pour aller le voir. Hein. C'est un truc incroyable, ça. Hein. Un tableau extraordinaire. Vous savez que... Alors, je ne sais plus quel est le Médicis qui a lui offert ça. Je devrais le savoir, d'ailleurs. Enfin, bref. Il l'avait fait faire pour la chapelle du Palazzo Vecchio. Donc, c'est le palais qui est au centre de l'île de... Et quand Granvelle est venu à Florence, en fait, Médicis lui a fait un cadeau, le retable qu'il y avait dans la chapelle. Et Bronzino, après, a dû refaire une réplique de son retable pour en remettre un autre exemplaire dans la chapelle du Palazzo Vecchio. Vous voyez, c'est un tableau qui a une provenance absolument extraordinaire. Un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, florentine. Vous savez, ça me rappelle beaucoup, par exemple, Rosso, qu'on a vu tout à l'heure, ou Pontormo, vous savez, avec ses roses, ses bleus, etc. On est vraiment là, dans la même idée, dans la même... Encore une fois, il faut voir, revoir et revoir, il faut baigner là-dedans. Et ça, un artiste dont on a vu une œuvre. Je ne suis pas comme Elon Musk, je ne fais pas ses lunettes. D'ailleurs, j'ai le poing fermé. Mais je fais un geste qui doit vous rappeler quelque chose.
Oui, oui, oui.
Sauf que là, je devrais tenir une tête.
Une tête, oui, voilà.
Alors, la tête de Méduse ou la tête
de Méduse. De Méduse. Donc je suis percée. Je suis bien sûr, je suis plus habillé que percé. Hein. Et donc, c'est de qui ça? Une œuvre qui est à Florence,
oui,
dans la Loggia dei Lanzi. Oui, cette loggia qui est à côté de Palazzo Vecchio, il y a toute une série d'œuvres fondamentales qu'on a vues déjà. Non. C'est vrai qu'il y a une œuvre de Verrocchio, hein, la Judith. Il y a le Percé de... Mais bien sûr, vous connaissez que ça, de Benvenuto Cellini.
Hein?
Mais bien sûr, vous connaissez ça.
Ah, c'est Narcisse.
Pardon ? C'est Narcisse, ouais.
Qui s'admire.
C'est Narcisse qui s'admire dans l'eau. Mm-hmm. Et qui s'admire tellement que bientôt il va devenir une fleur. Mm-hmm. Voilà. Une Narcisse. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir que c'est l'œuvre de la Renaissance. Hein.
Mm-hmm.
On est d'accord, hein, je vous le fais pas redire à chaque fois, je devrais d'ailleurs, mais bon. On voit bien.
Ça pourrait être une œuvre antique.
Mais voilà, absolument. Ça pourrait être une œuvre hellénistique. Ah, ça.
Ça, c'est Goujon.
Eh bien voilà, c'est Goujon. C'est Jean Goujon, un artiste bien français. Hein, voilà. C'est pour où?
C'est pour le Louvre.
Alors, c'est pas pour le Louvre, ça pourrait, parce qu'il a fait un travail pour le Louvre.
Une fontaine.
La fontaine des Innocents, exactement, que vous connaissez, Jean-Comisaou qui est à Paris, à côté des Halles. Hein. Pas ne pas la voir, hein. Eh bien, il y a toute une série de reliefs qui sont dus à Jean Goujon. Voilà. Ils viennent d'ailleurs dans la nouvelle installation en fin d'être enlevés. Ils sont présentés actuellement au musée Carnavalet avant d'aller peut-être au Louvre. Enfin bref. En tout cas, voilà une des nymphes de Jean Goujon. C'est intéressant parce qu'on voit comment c'est l'artiste français du XVIe siècle, et évidemment très, comment dire, inspiré par tous ces Italiens qui ont débarqué en France. Quoi. Décidément, je crois que ça parle de soi-même, quoi. Hein. Alors, on termine à quelques œuvres encore, dont ça, que je trouve très...
Ça, c'est espagnol.
Ça, c'est espagnol, absolument. Pardon ? Bravo. Oui, oui, c'est Morales. Ah, je ne pensais pas que vous trouveriez si vite. Bravo.
Vous avez montré deux qui étaient assez...
Oui, absolument, absolument. Oui, oui. Luis de Morales est peut-être le peintre espagnol de la Renaissance le plus particulier, enfin, le plus étonnant. Il est étonnant, ce Christ de douleur. On a l'impression qu'il attend un peu tranquille.
Oui,
il y a tous les instruments de supplice autour. Hein, et bon, il est là, il croise les jambes. Très, très surprenant.
Un peu bizarre.
Très bizarre.
Très bizarre.
Mais les œuvres de Morales sont extrêmement... Vous vous rappelez de ce que vous avez montré? Je vous en ai montré deux. Une Quetta et une Flagellation. Ah, alors là, vous allez me reconnaître ça. Vous vous rappelez que la dernière fois, on a...
Vous êtes marché.
Voilà, bravo, bravo, bravo. Ah, ben c'est bien, vous voyez, on y arrive. Super. Hobson. Voilà. Et on a un autre hein, qui s'appelle Baudelaire. Exactement. Hein. Voilà deux grands naturmortistes nordiques. Alors là, en plus, c'est assez simple. Hein. Vous avez, on a vu comment la nature morte était quelque chose qui prenait une autonomie comme le paysage à l'époque de la Renaissance. Hein. Là, vous voyez que c'est ça. Alors, il y a des personnages, plus ou moins des portraits. Regardez les personnages de gauche, c'est peut-être un portrait. Maintenant. Mais on voit que la nature morte prend son autonomie, prend de l'importance. Avant, au Moyen-Âge, la nature morte n'a pas cette importance-là. Hein. Là, on est au milieu du XVIe, la nature morte, désormais, est un genre. Et notamment dans les pays du Nord.
On dirait Bosch,
mais c'est pas Bosch. C'est Bruegel. C'est Bruegel. Mais déjà, la dernière fois, on avait un peu foncé sur Bosch, vous vous rappelez ? Avec un tableau qui représentait un...
Vous ne vous rappelez plus ?
Non. Oh, ne me dites pas que vous ne vous rappelez pas de ce qu'on a vu la semaine dernière. Un paysan qui montrait un bénicheur. Ah, qui était surtout un proverbe flamand. Alors là, c'est un tableau. J'ai fait exprès de choisir celui-là parce que là, voilà. Autant le tableau de la semaine dernière, il était très simple, etc. Il y avait deux personnages, un grand paysage. Là, c'est une espèce de foutoir extravagant. C'est intéressant ce qu'on voit comment Bruegel, comme Bosch, mais Bosch est antérieur, comment Bruegel est un artiste un peu, comment dire, qui tire encore le Moyen-Âge à la Renaissance. Vous voyez ce que je veux dire ? On a là encore un sujet. C'est quoi comme sujet ? Alors, ça pourrait, mais c'est pas.
Non, c'est Saint-Michel ?
Oui, Saint-Michel au centre.
Un jugement dernier ?
Alors, c'est pas le jugement dernier. C'est la chute des anges rebelles. Vous savez, il y a un moment où les anges, les méchants, ont voulu se révolter. Et donc, Saint-Michel, les archanges, les anges, tout le monde s'y est mis pour essayer de jeter, chasser. N'est-ce pas ? De chasser, c'est ça. Les anges rebelles, c'est ce que vous avez là, un extraordinaire tableau. Mais quelque part, vous voyez, ça c'est aussi une chose de la Renaissance du Nord. C'est une espèce de, rappelez-vous du tableau d'Aldolfer, qu'on a vu tout à l'heure, la bataille d'Issos. Rappelez-vous de ce que je vous ai montré la fois d'avant, c'est-à-dire le Saint-Michel de la Renaissance d'avant. Une espèce de précision et de foultitude de personnages ou de végétation, etc. Il y a ça chez Bruegel. Et dans un sujet encore très médiéval, Bruegel, c'est un peu un résistant du Moyen-Âge à la Renaissance. Même si le fait d'avoir cette espèce de profusion de détails en fait quand même quelque chose qu'on verrait. On verrait pas ça non plus exactement au Moyen-Âge. Mais que, quelque part, ça rappelle un peu les jugements derniers des cathédrales. Voilà. Mais avec une telle densité, un tel fourmillement, qu'on voit bien que ça ne peut plus être médiéval. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est forcément. En tout cas, c'est un extraordinaire tableau de Bruegel qui n'est pas le plus connu. Hein. Mais il y a un tableau stupéfiant, sidérant, incroyable. Un peu de calme, encore que...
Oh, il y a un fou, là.
Oui.
Deux nymphes.
Ouais. Il y a quelques petites nymphes, en fait.
Et puis, qu'est-ce que c'est à droite ?
À droite, c'est des chiens qui attaquent un...
Un cerf.
Oh, et sur le cheval, c'est...
Et sur le cheval, il y a un beau cavalier. Et puis, il y a un truc, là. Une espèce d'animal.
Un chien,
bizarre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau, à votre avis ? Qu'est-ce que ça représenterait ? Des muses ?
On n'a pas le bain de Diane.
Oui, alors voilà, il y a de grandes chances évidemment sur le bain de Diane, d'abord parce que on voit une scène, plus ou moins sa chasseresse, hein, Diane nue avec ses servantes, hein, alors il y a toujours quelques faunes, bon.
Des faunes
ben, ça c'est deux faunes, hein,
oui,
des sept-tiers. Bizarre avec Diane d'ailleurs. Enfin,
oui, c'est ça. Bon, ouais. Bizarre.
Mais quelquefois... J'allais dire, on aime bien perdre les pistes aussi, être libre par rapport à une rigidité mythologique trop grande. En fait, c'est un tableau aussi très allégorique, c'est un petit peu comme... On ne sait pas trop bien ce qu'il veut dire. Sabot, il est au musée de Rouen, il est de qui ? Il est de Clouet, mais de Clouet fils. Il y a Clouet père, on a vu un portrait de lui tout à l'heure, ça c'est le fils. et c'est le bain de Diane, mais en fait c'est un tableau un peu, là aussi, un peu à mystère. C'est-à-dire que les Français, c'est le cas de François Clouet, ont un peu, plus tardivement, imité les Italiens dans ces tableaux énigmatiques. Ça montre quoi ? C'est une Diane au bain, mais il n'y a pas tellement d'eau.
Non, il y a
vaguement un peu une goulotte avec trois gouttes là. C'est pas, allez-vous baigner là-dedans.
Bon. Il y a un drap de bain.
Oui, il y a un drap de bain. Mais enfin, il y a des satires. Avec Diane, notamment, les satires, c'est pas trop le truc. Hein. Diane, au contraire. Hein. Bon, il y a ce cavalier qui débarque. Alors, évidemment, il fait penser un peu à Actéon. Mais enfin, il a une tournure pas très antique. Hein. Bon, voilà. Il y a cette espèce de lion noirâtre devant le cavalier. C'est quoi ce machin-là ? Voilà. On est devant une espèce de tableau à mystère. Comme on les aime tant à la Renaissance. Aujourd'hui encore, il y a des bouquins sur ce tableau. Hein. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est le but de ça. L'espèce de mystère, d'énigme qui toujours habite ses œuvres. Ça, c'est aussi une des caractéristiques.
On n'a pas déjà vu ça ?
Non. On a vu un tableau du même. Alors, c'est la Rome antique, là, vraiment. Hein. C'est vraiment très, très antiquisant.
Il a coupé une tête,
vous savez, hein.
Ouais.
Il n'y a que des malheurs. C'est une scène de massacre, en clair. Ça, en fait, je vais vous le dire, hein, ça s'appelle les massacres du Triumvirat. Triumvirat, c'est un moment de l'histoire romaine, hein, où effectivement, les partisans des uns massacraient les autres. Enfin, voilà.
Donc,
un moment très. Oui, 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 absolument. Ah oui, non, c'est épouvantable. Hein. C'est épouvantable. Hein. Donc c'est là, vous en voyez toute une série. Hein. Donc c'est absolument épouvantable. C'est voilà.
Quelle collection ?
Ouais.
C'est un triptyque.
Alors c'était sans doute une œuvre d'un seul tenant à l'origine, mais qui a été tardivement coupée pour faire une sorte de triptyque. Mais c'était sans doute pas comme ça à l'origine.
Et là, il y a une fausse symétrie. Là.
Oui, 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 on voit. Puis alors, il y a des tas de citations romaines. Vous connaissez la colonne Trajane, hein, là. Vous connaissez l'Apollon du Belvédère. Enfin, on pourrait le Colisée, bien sûr, l'arc de Septime Salaire. Enfin, bref, on collectionne les monuments romains.
Hein. C'est des citations.
Des citations. L'artiste vous dit quelque chose, on l'a vu dans la deuxième séance. C'est ça. Et qui a présenté, vous rappelez, Auguste de la cité de Tibur. Elle montrait dans le ciel la Vierge apparaissant. Alors, c'est vrai que la deuxième séance, on a ramé. Hein.
Bah oui,
ça continue. Mais non, mais non. Eh bien, c'est Antoine Caron. Ah, et là, alors la fastoche. On n'en a pas parlé jusque-là, on a cité son nom tout à l'heure, mais ça dit, je ne vous avais pas casé encore. Un tableau typiquissime. Hein. Donc, il y a même une réplique au musée de Beaux-Arts de Dijon.
Ah.
Eh oui. C'est Florentin, ça. Ça vous rappelle Rousseau, ça vous rappelle Pontormo, ça vous rappelle Bronzino. Moi, je trouve pas. Hein.
Non.
On n'a pas les rosateries ou les bleuasseries de ces artistes-là.
Non,
hein.
Non,
c'est plutôt vénitien.
C'est plutôt vénitien.
Il y a une perspective. Il y a plusieurs
plans. Oui. Il y a un beau paysage avec un beau.
Oui. Oui. Regardez-moi cette soirée luxueuse, la figure qui est au centre. Le sujet, c'est quoi ?
Un petit chien, un petit nain.
Il y a un enfant qu'on présente.
Moïse sauvé des gens. Alors, c'est un artiste qui adore noyer les sujets dans plein de monde. Hein.
C'est la fille de Pharaon.
Quel est l'artiste vénitien super célèbre, hein, vous connaissez tous, hein, qui, comme ça, fait des œuvres très élégantes avec des tas de personnages. C'est l'auteur d'un des plus grands tableaux du monde, que vous connaissez, qui est au Louvre.
Véronèse.
Voilà une œuvre typique de Véronèse. Les noces de Cana. Un immense tableau. On ne peut pas ne pas le voir au Louvre. C'est l'auteur de ça. Qui gône, si j'ose dire, ses personnages avec des ah oui, c'est superbe. Hein. Alors, quelquefois, le sujet, on a du mal à le voir parce qu'il est tellement pris dans plein de choses. Et vous avez là une espèce de somptuosité vénitienne où on a des vêtements, des. Allez, on termine par deux, trois trucs encore, et je vous libère. on a vu une œuvre de lui.
Ah oui, il a vu une œuvre
très maniériste.
Oui, je vous ai montré une œuvre.
Oui, voilà.
Je vous mets sur la voie. C'est un Français, enfin, originaire d'une ville qui est toujours en France, mais qui a travaillé en Italie. Marrant, parce qu'on parle toujours d'Italiens qui sont nés en France, là c'est l'inverse. Alors, je vous ai montré un Mercure de lui.
Seulement,
on n'a pas révisé ses cours. C'est ça. C'est Jean Bologne. Vous savez qui est né dans le nord de la France, hein? Il est né à Douai. Et alors, ça se trouve dans la Loggia dei Lanzi. Vous savez, à Florence, quand on regarde le Palazzo Vecchio sur la place de la Seigneurie, hein, il y a le Palazzo Vecchio, où il y avait donc le fameux retable de Bronzino donné par les Médicis à Granvelle et qui était à Besançon. Mais à droite, il y a la Loggia dei Lanzi. Et dans la Loggia dei Lanzi, il y a dessous quelques-uns des chefs-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance. Il y a ça, il y a le Persée de Benito Cellini, il y a la Judith de Verrocchio. Juste à côté, il y a également, vous savez, le
David de Michel-Ange.
David de Michel-Ange, je crois qu'il y était, maintenant il est au Bargello.
Oui, au Bargello.
Voilà. Ah, on va presque terminer avec 2-3 œuvres, alors là. Ça, on n'avait pas parlé. Alors, Greco était évidemment un artiste, bon, espagnol, ça vous connaissez, hein, il est très reconnaissable, de la fin de cette période. Un artiste qui est un peu à cheval sur la Renaissance et le XVIIe, justement, ça fait partie de ces gens qui font passer de l'un à l'autre. C'est un artiste tellement stupéfiant, étonnant, très, très reconnaissable. Hein. Le sujet, une idée ? Voilà un personnage avec ses soldats. Et les soldats sont là tout autour, mais il va leur arriver un gros problème. Et on commence à le voir. C'est une affaire qui s'est passée en Suisse, pas très loin d'ici, à l'époque romaine. Le martyr de Saint-Maurice. Saint-Maurice, comme vous le savez, c'était un mort. Qu'on s'appelle Maurice, c'est qu'on est mort. M-A-U-R-E. Autrement, on ne s'appelle pas Maurice. Saint-Maurice était à la tête d'une légion romaine. Simplement, il avait le mauvais goût d'être chrétien. Ça, pour les empereurs romains, ça passait pas, si vous voulez. Donc il s'est fait exécuter avec toute son armée, et c'est sur le lieu d'exécution qu'a été construite l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, en Suisse. Vous connaissez l'abbaye de Saint-Maurice, où il y a un trésor médiéval extraordinaire. Hein. Et bien voilà, c'est l'histoire de Saint-Maurice qui est présentée ici. Saint-Maurice d'Agaune, hein, une superbe abbaye en Suisse, pas assez loin d'ici, finalement. Voilà. Le martyr de Saint-Maurice. On termine encore par 2-3 choses, puis c'est tout.
Une vierge.
Une vierge de... À quel moment, si j'ose dire ? De douleur. Voilà, vierge de douleur. Hein. Ça, c'est un artiste dont je vous ai montré des choses. Enfin, une chose. Dès le début. Là. Oui, c'est beau. Hein. C'est une espèce de table. De tas de tissus. D'étoffes. C'est incroyable.
Là aussi, c'est presque une Pietà.
Oui. Oui, oui. C'est curieux parce que c'est une œuvre qui est encore très médiévale, je trouve. On pourrait dire, tiens, voilà finalement une Pietà du 15e, un peu dynamique. Et en même temps, cette espèce de fourbi de tissus, enfin d'étoffes, nous amène déjà au 17e. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est en ça que c'est une œuvre très, très archaïque encore, très novatrice déjà. C'est pour ça que la naissance, c'est un peu compliqué. Hein. Une idée de l'auteur, dont on a vu des œuvres, c'est Germain Pilon, dont on a vu un Christ ressuscité. Allez, je crois que c'est le dernier. Une œuvre dont on a vu un artiste, dont on a vu une œuvre. Ça représente quoi, là ? Oui, ah oui, alors ça c'est très curieux. C'est le chaos total.
Avec les papillons.
Et puis vous avez là un petit papillon. Ah oui, oh non, mais c'est très...
C'est l'autre qui
Ah, c'est celui-là. Ah ben il est au bon endroit. Vous comprenez bien. Il faut quand même garder son camp à soi. Ça représente quoi?
L'apocalypse.
C'est la chute des titans, absolument.
Il y a du muscle.
Il y a du muscle. Eh bien, ça, ça vous rappelle quelqu'un qu'on a vu la dernière fois.
Oui. Oui, ben, le dernier là-bas.
Exact. Qui s'appelle?
Oh, je ne sais plus.
Cornelis van Aarlem. C'est un représentant de la Renaissance du Nord, de Haarlem. Et ben voilà, on aura fait notre petit tour. Hein. C'est compliqué la Renaissance. Hein. C'est compliqué. Hein. L'histoire de l'art, il faut se dire que l'histoire de l'art, c'est compliqué, c'est simple. Il faut regarder.
C'est comme
le tout. Ben oui, c'est vrai. Il faut absolument regarder. Il faut vraiment bouffer des images pour après les avoir là. Et c'est une fois qu'on a tout ça qu'on arrive à remettre les cases des uns avec les autres. Ça, c'est très, très important. Il faut à la fois prendre le temps, par exemple, de s'arrêter sur une image et la disséquer, la comprendre. Mais il faut aussi avoir des catalogues d'images en tête, parce que c'est ça qui permet après de relier les points. Et la Renaissance, qui est une période compliquée. Hein. On est entre le Moyen-Âge, là c'est assez balisé, hein, et puis le 17e, c'est l'époque moderne. On est entre les deux, et c'est une époque qui n'est pas si simple. D'autant qu'en Europe, il y a des différences. Hein, l'Italie est en avance sur le reste. Il y a des artistes un peu archaïques, d'autres pas. C'est une période difficile, compliquée. Je pense qu'on en aura dans ces séances vues la complexité, la subtilité aussi. Mais en même temps, on aura vu quelques-uns des invariants qui font qu'une œuvre de la Renaissance, ben, ça se reconnaît aussi. Je pense que maintenant, il y a un certain nombre d'éléments qui vous apparaîtront comme ne pouvant pas être médiévaux ou pas du XVIIe. En tout cas, je l'espère.
Oui, nous aussi.
Et donc, bien, et bien, la prochaine, la fois prochaine, on va aller vers des choses très différentes. Peut-être plus simples.